صلى على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. Nous poursuivons donc, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, tabarak wa ta'ala, l'explication de quelques versets du Coran Sharif choisis donc dans certaines parties du Coran. Et nous abordons, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah ta'ala, le 28e juz et le 29e juz, et peut-être le 30e également. On avait commencé le 28e hier. Peut-être encore quelques petites précisions par rapport à certains sujets qui n'ont pas été mentionnés. Et donc, pour, on va dire, embrayer et continuer sur ce qui a été présenté hier depuis le 28e Sibara, il y a dans ce 28e Sibara, je pense qu'on l'avait mentionné, la Suratul Jumu'ah. C'est-à-dire qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous parle de la salade de Jumma. Et dans un de ces versets, Allah Tabarak wa Ta'ala nous demande donc de délaisser nos occupations et de venir accomplir la salade de Jumma. Et à la suite de ce verset, Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit en ce sens: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lorsque vous avez terminé votre prière, alors éparpillez-vous sur la terre. وَبَتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et recherchez la clémence, la vertu d'Allah Tabarak wa Ta'ala. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Et souvenez-vous d'Allah Ta'ala en abondance. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Afin que vous réussissiez. À propos de ce verset, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayh, il nous dit que avant la salade de Jumu'ah, on avait dit lors de l'adhan, il est mieux d'arrêter tout au premier adhan. Il y a également une possibilité d'arrêter jusqu'au deuxième adhan, parce que ce n'était pas à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Uthman radiallahu anhu l'a institué, devant ce qu'on appelle le ijmar des sahaba, le consensus des sahaba. Mais après la salat, Allah Ta'ala nous demande وَبْتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allez rechercher la grâce d'Allah. Et il dit que Hazrat Iraq bin Malik radiallahu ta'ala, lorsque la salat de Jumu'ah était terminée, il arrivait aux portes de la masjid. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des portes de la masjid, il est important également, lorsque c'est la salade de Jumu'ah, de participer au khutbah. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens qu'il y a des anges qui sont postés aux portes des masajid. Et ils ont avec eux des livres dans lesquels ils inscrivent les personnes qui vont participer à la salade de Jumu'ah. Si par exemple nous arrivons après, alors que la khutbah a commencé, alors notre nom ne sera pas inscrit dans ce livre-là. Donc c'est important de faire attention. De la même manière, dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui délaisse 3 Jumu'ah consécutivement sans aucune raison valable, kutiba munafiqan fi kitabin la yumha wa la yubaddal, alors son nom sera inscrit parmi les hypocrites dans un livre qui ne pourra pas être changé. Les commentateurs de hadith sharif nous disent que Allah Ta'ala fermera en quelque sorte son cœur et il sera très difficile pour lui de faire pénétrer les paroles de bien. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à l'importance de la salat du Jumu'ah. De la même manière, dans un hadith sharif, il est dit que le jour du Jumu'ah sera ressuscité le jour du jugement comme une lumière qui montrera sa valeur par rapport aux autres jours de la semaine. Il a mentionné ce riwayat-là. Bref, c'est un grand jour pour le musulman. Et donc, on était en train de dire que Hazrat Iraq bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il avait terminé il allait aux portes de la masjid et il faisait ce dua. Allahumma inni ajabtu da'watak. Ô Allah, j'ai répondu à ton invitation. Wa sallaytu faridatak. Et j'ai prié ton obligation, c'est-à-dire la prière. Wa antashabtu kama amartani. Et maintenant, comme tu m'as ordonné, je m'éparpille et je vais sur la terre. Farzuqni min fadlik. Donne-moi la subsistance de par ta clémence. Wa anta khayrul raziqin. Et tu es le meilleur des pourvoyeurs. Il est dit que de la même manière, certains pieux prédécesseurs, après la salat de Jumma, ils faisaient du commerce. Et ils disaient, d'après Hafez ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que de faire le commerce après la salat de Jumma rapporte 70 fois plus de baraka comparé aux autres jours. Et ça donc s'est retiré de ce verset du Coran Sharif, « Wabtaghu min fadlillah » Allez chercher le fadlillah, la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, lorsqu'on sort de la masjid, c'est un des doigts qu'il faut dire. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Donc ça, c'était un peu par rapport à la salat de Jumma. De la même manière, dans la catégorie, on va dire, des vertus, il y a la surah tabaraka alladhi biyadihi al-mulk que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à lire les soirs également. Et ce sera, inshallah, une protection contre le châtiment de la tombe. Si quelqu'un dit ça tous les soirs, inshallah, il sera protégé contre le châtiment de la tombe. Dans le Dakhab et Ahadith, par exemple, vous trouvez des récits en ce sens qu'une fois, c'est un Sahaba, radiallahu anhum, si je me trompe, c'était des Sahaba, sont arrivés à un endroit, ils ont planté leur tente. Et ils ont reçu cette information par un rêve d'enlever cette tente. Et lorsqu'ils sont allés vers le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que il y a quelqu'un qui est enterré à cet endroit, il avait l'habitude de lire la surah al-mulk, donc Allah ta'ala l'a protégé par rapport à ça. Dans certaines traditions également, on trouve que cette surah al-mulk, on lui donne d'autres noms, c'est-à-dire qu'elle a d'autres appellations. Par exemple, inshallah, si je me retrouve, on dit que la surah al-mulk, c'est-à-dire la surah al-tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, c'est une sourate qui comporte, vous savez, 30 ayats, 30 versets. Allama al-Aussi, rahimahullah ta'ala, il dit, ce n'est pas un hadith sharif, mais il dit que si quelqu'un, à la vue de la première lune, il va lire la sourate al-mulk, puisque la sourate al-mulk a 30 versets, et qu'un mois peut comporter 29 ou 30 versets, inshallah, Allah ta'ala lui protégera contre toutes les calamités. Ça, ce n'est pas un hadith sharif. Il a dit comme ça dans Tafsir Muhammad al-Ma'ani. Et donc, j'ai dit qu'il y avait d'autres noms également. On appelle cette surah al-Waqiyah. Pas Waqi'ah, avec un Ayn, surah al-Waqi'ah, mais Waqiyah. Ça veut dire la surah protecteur. Ou bien encore Munjiyah, celle qui va nous sauver. Mufti Shamsam, rahmatullah alayhi, dit ça. Que dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hiya al-Mani'ah. C'est une sourate qui va donc nous sauver contre le châtiment de la tombe. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de lire cette sourate au mulk, qu'inchallah ça nous rapportera beaucoup de vertus. Toujours dans cette partie, on va dire, on complète un peu, hier on n'a pas pu terminer. Il y a un verset du Coran Sharif dans la sourate Nun. Et ce verset c'est « Wa iyyaka alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim » لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون سورة القلم qui commence donc par نون والقلم وما يسترون. Le dernier, l'avant-dernier verset, numéro 51, Allah Ta'ala dit: peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent: il est certes faux. Et à propos de ce verset, Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il nous dit que Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, qui est un grand tabiri, il dit que si quelqu'un est atteint par le mauvais œil, alors de lire cette ayat-là et de souffler sur la personne. D'autres savants, ils ont adopté, on va dire, ils ont mis en place une méthode un petit peu différente. Ils disent que pour le mauvais œil, par exemple, Allahu alam, c'est Allah qui met l'effet dedans, de lire 7 fois ce verset. Et à chaque fois qu'on lit une fois, on souffle dans un verre d'eau. Donc on lit une fois, on souffle, on lit deux fois, on souffle, troisième fois, on souffle, jusqu'à la septième fois. Et ensuite, vous buvez ce verre d'eau en 9 gorgées. Et à chaque fois que vous buvez une gorgée, vous lisez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'eau qui va rester, vous allez prendre un bain avec, vous allez rajouter cette eau dans une bassine, et vous allez prendre un bain avec, Inch'Allah, dans ta de par sa puissance, Inch'Allah, il va enlever le mauvais œil. Donc ça, c'est une méthode qui est mentionnée. Et à propos donc de ce verset-là, Hazrat Hassan Basri, rahimahullah ta'ala, il est d'avis que ça, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'effet. De la même manière, pour compléter un peu ce qu'on a oublié hier dans la catégorie des bonnes actions, il y a un verset dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, il nous incite à dépenser avant l'arrivée de la mort. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'être humain, les fils d'Adam, ils disent, Yaqul ibn Adam, mali, mali. Le fils d'Adam, les êtres humains, ils disent, mon argent, mon argent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ton argent n'est en réalité que ce que tu as mangé, ces vêtements dont tu t'es habillé et ceux dont tu as dépensé dans le chemin d'Allah. Ça, c'est en réalité ton argent. Parce que lorsque tu vas quitter cette terre, tout ce que tu as pu obtenir, tout ce que tu as possédé, va être distribué. Et tout ce que tu possèdes, à hauteur de un tiers, ce qu'on appelle la wasiyat, le testament, uniquement à hauteur de un tiers, tu peux faire un testament. C'est-à-dire, le testament ne peut pas dépasser un tiers de la somme totale de ce qu'on possède, magasin, commerce, voiture, etc. Donc notre argent, Allah Ta'ala, tabarak wa ta'ala, dit ici, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ et dépenser de ce que nous vous avons octroyé, مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Et lorsque la mort va venir, vous allez dire, فَيَقُولْ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ oh Allah, si seulement tu m'accordais un coup à délai, pour faire quoi? فَأَصَّدَّقَ je ferai le monde. Et je serai parmi les gens de bien. Allah Ta'ala dit la suite de ce verset, وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَى أَجَلِهَا qu'aucune... Allah Ta'ala n'accorde cependant aucun délai, jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ et Allah Ta'ala sait très bien donc ce que vous faites. Et à propos de ce ayat et de ce verset-là, il y a une petite latrifa, on va dire, c'est que Allama Alusi, rahimahullah ta'ala, il a posé la question, est-ce que l'ordre des sourates du Coran, ça vient d'Allah ta'ala, ou bien c'est Hadith Othman, radiallahu, qui a compilé le Coran, chalif comme ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est un qifi, on appelle ça, ça vient de marquer dans le Coran, parce que vous savez que l'ordre que nous avons devant nous, de ce Coran, chalif, ce n'est pas l'ordre de la révélation. Les premiers versets qui ont été révélés, ce sont ceux de la sourate Iqra, les 5 premiers versets. Ensuite, c'est la sourate Al-Muzzammil, la sourate Al-Muddathir. Donc nous, comment on commence par sourate Fatiha. Et les premiers versets qui ont été révélés, c'est la sourate Iqra. Donc vous voyez, on ne commence pas par les premiers versets qui ont été révélés. Donc est-ce que malgré tout, ça vient d'Allah tabarak wa ta'ala ou pas? Il dit que oui. La meilleure opinion, l'opinion la plus acceptée, c'est que cet ordre des sourates également, ça provient d'Allah tabarak wa ta'ala. Et parmi ces preuves, il donne ce verset. « وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَى جَاءَ أَجَلُهَا » que Allah ta'ala ne donne jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. « وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » Comment il explique que c'est une preuve? Il dit parce qu'Allah tabarak wa ta'ala parle ici de la mort. Et si vous regardez le numéro de la sourate, c'est la sourate 63. Et 63, c'est l'âge du départ de ce monde de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des petites vérités numériques, on va dire, des secrets cachés du Coran Sharif. On va passer brièvement une charte à quelques aqidas, nous sommes à 9e sibara. D'abord, une des aqidas, une des croyances, c'est quoi? C'est sur ce qui repose, ce qui concerne la vue, la vision d'Allah tabarak wa ta'ala. Tous les savants, les fuqaha, les ulama de la Ummah, ils sont d'accord pour dire que le musulman, inshallah, il va voir Allah tabarak wa ta'ala le jour du Qiyamah. Imaginez la scène en tant que récompense. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. C'est donc dans la sourate Al-Qiyamah, sourate 75, verset 22-23. Allah Ta'ala dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont le Seigneur. En dehors des Mu'tazila et des Khawarij, qui sont deux groupes donc déviants, en dehors de ces deux groupes-là, toute la Ummah est d'accord pour dire que le jour du Qiyamah, les musulmans, chacun en fonction de sa piété, en fonction de ses bonnes actions, ils vont voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, c'est une des preuves. De la même manière, dans cette tafasir, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً. Pour les gens qui auront fait le bien, ils auront al-husna, le paradis, et ils auront plus que ça aussi. Et plus que ça, plus que le paradis, ça sera quoi? Le plaisir de pouvoir voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, comment est-ce qu'on va voir? Comment ça va se passer? Ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même le sait. On ne décrit pas la kayfiyat, c'est-à-dire comment ça va se passer, parce que ça amène plusieurs questions sur donc Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même. Donc on croit en ça, et le kayfiyat Allah Ta'ala lui-même le sait. Donc ça, c'est une première croyance aqidah. Deuxième chose qu'on va mentionner, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala parle beaucoup, mais alors beaucoup dans la sourate Amman du jour du Qiyamah. Comment ça va se produire? إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, le soleil sera obscurci. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ, les étoiles deviendront ternes. وَإِذَا الْجِبَالُ سُوِّرَتْ, les montagnes mises en marche, etc. etc. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala décrit beaucoup la scène du Qiyamah. Et dans un hadith sharif, il dit en ce sens que si vous voulez voir avec vos yeux la scène du Qiyamah, alors lisez la surah Takwir, il a shamsu kuwirat, ou alors la surah Al-Fitar, il a samaa al-fatara. Donc Allah Ta'ala nous parle beaucoup de cela. On va juste prendre un point, inshallah, ici. C'est combien de temps durera le jour du Qiyamah? Combien de temps ça va durer le jour du Qiyamah? On trouve plusieurs versets dans le Coran sharif. On va en mentionner trois, inshallah. Dans un premier verset de la surah Alif Lam Mim Sajda, le 27e sifara, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qu'un jour est égal à 1000 ans. De la même manière, dans la sourate Al-Hajj, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah Ta'ala ne manquera sa promesse. Cependant, un jour auprès d'Allah équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc d'un côté, on a ces deux versets-là. Et dans la sourate Al-Ma'arij, qui est dans le 29e sifara, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit montent vers Allah Tabaraka wa Ta'ala en un jour dont la durée est de 50,000 ans. Donc il y a deux versets qui disent 1000 ans et il y a un verset qui dit 50,000 ans. Il y a notre hadith sharif. Comment est-ce qu'on va faire tatbir de ça? Al-Imam Al-Tahawi rahmatullahi alayh, en deux mots, il a donné la réponse. Il a dit: soit c'est imtidad, ça veut dire que le jour va être rallongé, ou alors c'est ishtidad, ça veut dire qu'en fonction de la sévérité et de l'horreur de ce jour va être plus ou moins long pour une personne. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Alors, il nous préserve, par exemple, quelqu'un, il est dans la prison. Alors pour lui, un mois, un jour, ça peut paraître des décennies, parce que c'est extrêmement long. Il n'a pas la liberté, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Donc le jour du Qiyamah, de la même manière, les non-musulmans, les kafirs, pour eux, à cause du châtiment, ce jour, ça va représenter 50,000 ans. Allah le protège, le protège tous. D'autres, Manatani Rahmatullahi Alayhi, il dit que peut-être qu'ils auront moins de mauvaises actions, on va dire, donc ça va représenter pour eux 1000 ans. Ça, c'est une explication, c'est-à-dire la sévérité de ce jour. Ou alors, on a entendu Rahmatullahi Alayhi dit que ça peut varier, comme la durée de ce jour peut varier sur cette terre, alors ça peut varier également dans l'au-delà. Mais Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous prive pas de sa rahmat, Inch'Allah, Amin. Pour les musulmans, dans un hadith sharif, il est dit que Inch'Allah, la durée de ce jour, ça va être la durée qu'il y a entre une salah et une autre salah. C'est-à-dire, on a accompli une prière, alhamdulillah, et on va accomplir la prière juste cette durée-là. Allah Ta'ala il va donc faire de la durée de ce jour du qiyama. Donc ça également ça dépend de l'habilité de chaque personne. Ensuite, pour mentionner quelques masa'il dans la surah Al-Muzzammil, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit comment lire le Coran Sharif. Wa rattili al-Qur'an tartila. Et lire le Coran Sharif avec tartil. Alors tartil ici, ça ne veut pas dire le tartil, le mot qu'on utilise dans le tajwid. Il y a différentes manières de réciter le Coran Sharif. On appelle dans le tajwid, le premier c'est en général comme on lit dans la salat de Tarawih. Hada, on appelle ça, ça veut dire on lit assez vite. Le deuxième c'est tadwir, ça veut dire on lit un peu plus lentement, comme dans les salat faras en général. Et le troisième c'est tartil, lorsqu'on dit on va faire qira'at, il y aura un qira'at, donc il est extrêmement doucement. Ici Allah Tabaraka Ta'ala, lorsqu'il nous parle de tartil, il récite le Coran Sharif lentement et clairement, c'est la traduction qu'il donne. Donc déjà, tu vois, Allah Tabaraka Ta'ala dit ça peut vous dire plusieurs choses. Le tartil, ça comprend de réciter avec une belle voix, de réciter avec la prononciation et de réciter en ayant à l'esprit les sens, c'est-à-dire donc d'essayer de méditer sur les sens. Allah Ta'ala parle également dans cette surah de Muzzammil du Tahajjud, de la salat du Tahajjud, qui à un moment était farz, elle était obligatoire. Et les Sahaba radiallahu anhu et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils priaient ça. Allah Ta'ala dit ensuite à l'imam Al-Lam, تُحْسُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Donc il a allégé cela. Et donc après, ce n'était plus obligatoire. Non. Et à propos de cette salade de Tahajjud là, est-ce que la salade de Tahajjud, ça veut dire qu'il faut dormir, puis se réveiller et ensuite prier? Ou alors, est-ce que la salade de Tahajjud, on peut la faire depuis la salade de Isha? C'est un là-bas. Des fois, il y a des discussions par rapport à ça. Hazrat Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, Hazrat ibn Abbas, Hazrat ibn Zayd, Hazrat ibn Zubayr, radiyallahu anhu, ils sont d'avis que toute la nuit également, ça fait partie de ce nashiyatul layl, c'est-à-dire on va avoir la récompense de la salat de Tahajjud. Hazrat Abu Hamid al-Barakatou, il dit donc c'est très facile, juste après la salat de l'Isha, bien sûr, le mieux c'est de se réveiller la nuit, la dernière partie de la nuit, mais si on ne peut pas, au moins après la salat de l'Isha, après le sunnah, après le wita, bien avant, on peut faire, après la salat de l'Isha par exemple, on peut faire deux rak'a, Inch'Allah, ça va être considéré comme salatul layl. Allama Shami, rahimahullah ta'ala, dans Radul Wahda, il a également mentionné les hadiths sharif, marfou' de Tabarani, si je me trompe, qui prouve ça également. Donc ça, c'est une chose importante. Ensuite, par rapport au péché, normalement, il a parlé, il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, la salat, l'importance de la salat. Il y a dans la surah de Tadfif, les fraudeurs, waylun lil mutaffifin. Allah Ta'ala dit destruction aux fraudeurs. Les fraudeurs, c'était les gens qui, dans la mesure et la pesée, soit ils pesaient en moins ou ils donnaient en moins, donc ils trichaient. Mais, au Kishafi Sahih Mahmoud Ali, qu'est-ce qu'il nous dit? Que d'après un riwayat de Hazrat Umar, une fois, une personne, il a donc prié, il a fait la prière. Mais il a fait la prière tellement rapidement que Hazrat Umar, il a dit Naqad tafafta. C'est-à-dire que tu as fraudé également dans ta salat. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a mis un bab, un chapitre dans son kitab, Imam Malik, et il nous dit dans ce bab, dans ce chapitre-là, li kulli shay'in wa fa'un wa tadfifun. C'est-à-dire dans chaque chose, soit on va faire la chose comme il le faut, ou bien on va frauder. Et ça, ça me rappelle un autre, on va basculer sur un autre ayat, où on voulait venir. Allah Ta'ala dit dans la surah Al-Ma'arij les qualités qu'un musulman, un bon musulman, il doit avoir. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Ce sont les gens qui, par rapport à leur dépôt, par rapport à leur amanat et par rapport à leur promesse, ils font extrêmement attention. Alors normalement, lorsqu'on parle de amanat, on entend quoi? On entend la monnaie que quelqu'un, par exemple, il vous a prêté ou il a demandé de garder pour vous. Ça c'est un amanat, ça c'est un dépôt. Mais c'est un sens beaucoup plus large que ça. Mufti Shafi Zahir, rahmatullah alayhi, il dit tout, ça peut être dans les mu'amalat. Par exemple, vous êtes employé chez quelqu'un, il vous a employé pour travailler de 8h jusqu'à midi. Ça aussi, c'est un amanat. Votre temps, c'est un amanat. Si dans cette heure-là, qui vous est destinée pour travailler, vous n'avez pas travaillé, vous avez, on va dire, fraudé un peu, mais ça aussi, c'est des khiyanat de l'amanat. Ça aussi peut demander pardon à Allah. Pour les professeurs qui étudient à la madrasa, cet Abu Zubaydah faisait tellement attention que que dans les heures de cours, même si les gens venaient les voir, alors ils ne les acceptaient pas. C'est-à-dire, lorsque les cours étaient finis, dans les heures de libre, là ils recevaient les personnes. Et s'ils avaient reçu les personnes dans les heures de cours, alors à la fin, gardaient leur piété, ils enlevaient de leur salaire le temps qu'ils ont manqué. Donc Amanat, c'est quelque chose de très vaste. Parfois, on est au bureau, on est au travail, on utilise le téléphone pour des affaires personnelles. À mon avis, ce n'est pas quelque chose de correct. On utilise l'imprimante pour imprimer nos documents personnels sans autorisation. Donc ça aussi, il faut faire attention. Ça aussi, c'est Amanat de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et enfin, pour terminer, les bienfaits du Tawbah, de demander pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans la sourate Al-Nuh, Allah Ta'ala dit que demander pardon, quel bienfait Allah Tabaraka wa Ta'ala va vous donner ? Yursilis salaa alaykum midraa. Allah Ta'ala, il va envoyer la pluie abondante si on va demander pardon correctement. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهِ. Si vous voulez avoir beaucoup de biens et des enfants également, faites le Tawbah également. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ. Allah vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. Donc ça, à propos du Tawbah, quelqu'un est venu voir un homme pieux une fois, il a demandé, il a dit, mais voilà, il y a un manque de pluie, il y a la sécheresse, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme pieux lui a dit, faites Tawbah, demandez pardon à Allah Ta'ala. Quelqu'un d'autre est venu et dit, voilà, j'ai des problèmes de finance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, faites l'istighfar, demandez Tawbah à Allah Ta'ala. Quelqu'un d'autre est venu et dit, je n'arrive pas à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, faites l'istighfar, Tawbah, demandez à Allah Ta'ala. Alors, une des personnes proches qui était là, elle dit, ben, à chacune des questions, vous avez répondu la même chose. Il dit, oui, parce qu'Allah Ta'ala dit, lorsque vous allez faire cet istighfar et Tawbah, vous allez avoir tous ces bienfaits. Il va envoyer la pluie, Allah Ta'ala va augmenter vos biens et Allah Ta'ala va vous donner des enfants également. Juste pour terminer, c'est un riwayat, un hadith sharif de Hadith Abdullah bin Abbas, qui dit en ce sens que Khamsun bi Khamsi, c'est-à-dire pour 5 péchés, il y a 5 punitions. Joshas de Shikni Kaltahe, celui qui va rompre sa promesse. Allah Ospa Muske Dushman Kumusallah Kalaharim Kaldeta, celui qui ne tient pas sa promesse, Allah Ta'ala va faire que ses ennemis vont le dominer, cette personne. جوقوا الله كقانون كشوكة بسر قوانين فالفسقة كتهي قلمي فقر وإحتياج عامه جلاله celui qui délaisse les lois d'Allah تبارك وتعالى pour les lois d'autrui des autres, Allah Ta'ala enverra la pauvreté, la dépendance sur ce peuple. Dieu dispense les béhayaïs en zina عامه جلاله وسبح الله تعالى طاعون en بسر وغاية الله صلى الله عليه وسلم. La nation parmi laquelle il y a l'indécence, l'immoralité, l'adultère, ça devient rare, ça devient commun. Alors Allah Ta'ala, il enverra des punitions et de nouvelles maladies. Il enverra de nouvelles maladies, comme c'est le cas. Ceux qui, dans le poids et la mesure, ils frottent, Allah Ta'ala, il enverra la famine. Et si les personnes qui ne donnent pas la zakat, Dieu donne zakat à l'identité, Allah Ta'ala c'est pas riche qu'on manque d'état. Et les gens qui ne donnent pas la zakat, Allah Ta'ala ils privent de la pluie. Al-Qurtubi wa qala kharaja min Gaza bi ma'nahu wa Malik ibn Anas min hadith ibn Umar radiyallahu anhu. Donc c'est chapitre 191, page 694. Donc ça c'est encore une fois, ça paraît extrêmement simple, mais les péchés, ça a toujours des effets. Allah Ta'ala fait que dans les quelques moments du mois de Ramadan qui nous reste, on arrive à demander pardon. Même la nuit de Laylatul Qadr, la Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si je trouvais la nuit de Laylatul Qadr, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire d'autres actions, mais il a dit, même si on peut faire, c'est bien également, mais il a dit de faire du'a. Et peut-être, Allahu alam, ça c'est ma petite opinion, peut-être. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ad-du'a'u mukhul 'ibadah, que la moelle épinière ou bien le centre même des ibadat, c'est quoi? C'est du'a. C'est-à-dire montrer sa dépendance à Allah tabaraka wa ta'ala. On dit également une autre parole, ad-du'a'u huwa al-'ibadah. Si vous voulez vraiment faire ibadat, alors c'est uniquement le du'a. Et dans ce du'a, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé le pardon. L'homme le plus pieux de cette terre, il ne sait pas si Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va le pardonner ou pas. Notre Omar radiallahu ta'ala, il est dit dans l'Ihya wa Ulum al-Din, un kitab de Ibn Razali, rahimahullah ta'ala, façon si je me trompe, que si on annonçait que tout le monde ira au paradis, sauf une personne, alors j'aurai la crainte que cette personne, ce sera moi. Et si on annonçait, on ferait l'annonce que tous les gens iront en enfer, sauf une personne, alors j'aurai l'espoir que cette personne serait moi. Pour dire quoi? Que l'iman, c'est entre l'espoir et la crainte. Il faut toujours craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, il nous pardonne, il nous pardonne nos péchés. Il faut faire beaucoup de droit pour la Ummah, pour toutes les personnes. Et Allah Ta'ala, il nous garde toujours ferme sur le dîn, avec la bonne compréhension, la bonne science, le contact des ulama, pour avoir également le visage divin. Ça veut dire qu'est-ce que la charia, elle veut dire.